Merci à vous de venir pour cette première version, ce premier épisode d'un rendez-vous que l'on veut régulier, qui s'appelle désormais donc Mola Polar, qui Merci. Nous permettra de retrouver les amateurs de polar et un auteur ou un éditeur chaque premier samedi du mois. Donc c'est un rendez-vous qu'on invente. C'est toute l'équipe du rayon policier et beaucoup de rayons, d'autres libraires du rayon poche notamment, qui s'est investi dans ce projet avec beaucoup de fébrilité depuis un mois. Il y en a même certains que je ne regarde pas, mais qui ont du mal à dormir depuis quelques jours à l'idée qu'il puisse se passer quelque chose, que Jérémy Guay soit un garçon terrible. Il semblerait que Jérémy Guay, notre invité pour la première, soit un garçon adorable. Il a pris l'avion très tôt ce matin en compagnie de son éditrice, Bénédicte. Et voyager avec Bénédicte, c'est jamais un moment facile parce qu'elle parle tout le temps. Ouais. Et malgré tout, il a réussi à se reposer. Et à...
Ce matin, elle ne disait rien.
Voilà, ce matin... Ce matin, c'est la Toussaint. Ouais. Voilà. Donc, on a trouvé aussi assez drôle et assez amusant que de faire le premier Mola Polar la veille du jour des morts, voilà. Sachant que les morts est quand même une des spécialités du roman policier, hein, même si de nos jours, on arrive à faire des polars sans morts. Voilà. Alors, notre invité, je vais vous expliquer comment ça va se passer, le déroulement, puisque c'est la première fois. Nous recevons donc Jérémy Guay pour la première fois, et nos libraires qui ont lu son œuvre, on l'a en large en travers, vont l'interroger. Il a lui-même été préparé pour quelques questions. Après quoi, il y a la partie plus échange. Nos libraires vont vous présenter leur coup de cœur du moment. Jérémy Guay va vous présenter aussi ses coups de cœur du moment. Et puis, bien entendu, et on compte sur vous, on aimerait bien que les participants puissent lever le doigt ou lever la main ou en tout cas intervenir pour dire « Moi, j'aimerais qu'on parle de tel livre » ou au contraire dire « Ce livre est épouvantable ». On aimerait bien que le public du polar, qui est un public très particulier, qui aime beaucoup échanger, qui est un public un peu à part dans le monde littéraire, s'approprie ce moment et soit capable de dire « Moi aussi, j'ai lu ». Et on sait que nos libraires polars sont les libraires qui, dans la librairie, échangent le plus avec leurs clients. Ils ont cette particularité-là, ils ont leurs clients. Et on aimerait bien que ces clients parlent non plus seulement à leurs libraires, mais à d'autres amateurs de polars. Alors, je vais laisser la parole à nos deux dames en noir, qui sont Karine et Véronique, pour interroger Jérémy, que je remercie. Donc d'essuyer les plâtres joliment, mais ce sont des plâtres noirs, c'est les plus faciles. Voilà, merci beaucoup.
Donc Jérémy Guay, on va commencer un peu par votre identité. Vous avez 26 ans, dites-vous depuis quelques années que vous êtes l'une des plumes prometteuses et un jeune auteur de talent depuis que vous avez commis 4 livres à votre actif. Vous avez fait vos armes chez un petit éditeur qui s'appelait La Tango, qui, talent confirmé en 2013, vous avez remporté pour votre deuxième ouvrage Balancé dans les cordes, le prix SNCF du polar. Donc vous avez été reconnu, l'accueil enthousiaste du public. Et en 2014, en avril 2014, vous rejoignez la prestigieuse famille des grands détectives avec, et vous nous étonnez d'autant plus, avec Le dernier tigre rouge qui nous plonge en pleine guerre du Vietnam. Donc atmosphère très différente des 3 premiers qui formaient une sorte de trilogie ou plutôt de triptyque avec le seul personnage... le personnage central qui est la ville de Paris, triptyque parisien. Et vos héros qui sont des anti-héros dans la lignée, alors ce que vous disiez dans une interview, j'ai pris cette citation, des poissards sublimes qui ont percé mon adolescence. Cette lignée-là de ces anti-héros, je trouvais ça assez beau. Donc vous avez accepté pour ce premier Mola Polar d'être notre premier suspect en garde à vue. Nous vous gardons jusqu'à au moins midi et vous serez interviewé par les deux enquêtrices du Polar. Et donc le public est invité à bien sûr à intervenir quand il le souhaite, c'est le but du jeu. Alors je vais laisser la parole à Karine.
Oui, je veux bien poser la première question qui sera le mobile bien sûr, hein, parce que pourquoi écrit-on ? Alors j'ai trouvé sur internet que vous avez commencé à écrire très jeune, 16-17 ans, et qu'après votre premier livre a été publié à peine à 21 ans, Paris la nuit. D'où vous vient cette passion ? Quels sont les dessous de l'écriture ? Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit ?
Enfin, l'écriture, ça semble assez jeune comme ça, 15-16 ans, mais moi, quand je parle avec des auteurs que je croise, généralement, dès qu'ils ont su écrire, ils ont écrit des petites histoires, ils ont commencé. Moi, j'ai jamais trop fait ça, j'ai beaucoup lu enfant et adolescent, et la première chose que j'ai commencé à écrire, c'était... une sorte de brouillon de Paris la nuit. Donc comment ça vient et pourquoi, c'est difficile à expliquer. Ce qui est sûr, c'est que j'ai du mal à envisager l'écriture sans la lecture. C'est même très pénible pendant les phases d'écriture d'être coupé de la lecture. Donc la la seule origine commune, je pense, à tous les auteurs, c'est évidemment d'avoir été au moins impressionné par un livre. Ça me fait toujours sourire quand je lis des interviews d'auteurs raconter qu'ils n'ont jamais lu ou qu'ils lisent pas, peut-être qu'ils lisent plus. J'ai du mal à croire qu'ils n'ont jamais lu et qu'ils ne sont jamais tombés sur un livre qui leur a donné envie de faire ça.
Il y avait une envie au départ, de toute façon.
Oui, bien sûr, il y avait une envie et un appétit pour les histoires un peu en tout genre. J'ai jamais eu de préférence, même si le genre noir, ça occupait une grosse partie de mes lectures, mais j'étais assez curieux de tout.
Alors, j'étais étonnée quand j'ai lu la trilogie parisienne de votre écriture noire, dense, nerveuse, qu'on sent déjà dès le premier ouvrage. Mais cette plume noire, je me dis, est-ce qu'elle a un vécu ? Parce qu'il y a un côté cru, réaliste. On plonge dans le monde des petits dealers. On est dans la banlieue parisienne, les milieux interlopes. Est-ce qu'il y a du vécu là-dessous ? Parce qu'on a l'impression d'y être.
Non, non, moi je suis quelqu'un qui fictionne tout. Je suis très attaché à ça, d'autant plus que j'ai quand même l'impression qu'on vit dans un monde où on est gavé de témoignages. Il suffit de regarder les meilleures ventes des livres pour en avoir la preuve. Et j'ai l'impression que c'est compliqué aujourd'hui, ça revient un peu, mais de parler de fiction pure. Il y a eu beaucoup d'autofiction en littérature. Il y a beaucoup de témoignages d'hommes politiques, de stars, de la télé-réalité, de la chanson ou autre. Et non, enfin, moi je revendique vraiment le fait de tout fictionner. Alors après, si je peux remanier des anecdotes, des traits de caractère que j'ai pu observer chez des personnages assez truculents que j'ai pu croiser dans ma vie, je le fais, mais... c'est 100% fictionnel et fictionné, et je dirais jamais que c'est du vécu ou inspiré de faits réels et tout ça, parce que ce serait vraiment mentir, quoi. Tout est fictif à 100%.
Bon, parce que j'allais vous demander si vous aviez fait de la boxe, mais non, alors.
j'en ai fait un peu, mais en fait, ce qui m'a intéressé, moi, c'est drôle que vous parliez de ça, parce que j'en ai fait adolescent, même pas mal, mais ce qui m'a intéressé avant le sport, c'était l'image du sport dans des films comme, voilà, j'ai vu Nous avons gagné ce soir de Robert Wise, qui est un film quasiment tourné en temps réel avec Robert Ryan qui suit une soirée de gala aux États-Unis, comme il y en avait plein, de types qui sont pas spécialement des champions et plutôt des losers. Et je pense que l'origine de l'envie de raconter ça dans un livre, c'est plus l'imagerie fictionnelle, c'est-à-dire via le cinéma ou la littérature, et l'approche vraiment de l'approche artistique du sport et le rendu complètement fictif.
Oui, parce qu'on a l'impression d'y être, oui. Est-ce qu'au départ, vous aviez le projet de cette trilogie, finalement, parisienne ?
Ouais, c'est un projet que j'avais dès le début. C'est trois livres, en fait, qui correspondaient à trois univers très, très marqués et à trois branches que moi, j'identifiais clairement dans mes lectures. Alors, je ne suis pas du tout un érudit du genre noir, donc ça correspond à aucune réalité, mais il y avait trois types de romans noirs que moi j'identifiais et qui me plaisaient. C'était le roman de délinquance, donc c'était un peu l'objectif de Paris la nuit, c'est-à-dire de pas victimiser les personnages principaux et de traiter vraiment très sèchement de types pas forcément sympathiques et plutôt bas du front. Le deuxième, Balancé dans les cordes, c'était un roman de perdant, donc au contraire des personnages plutôt sympathiques qui se prennent un peu les pieds dans le tapis et qui descendent aux enfers. Et le troisième, c'était le roman de privé. Donc voilà, qui est évidemment une branche majeure de la littérature noire, en particulier américaine, mais pas que. En France, il y a eu aussi des personnages auxquels on pense assez rapidement, mais donc voilà, ça correspondait à trois univers qui, moi, me plaisaient et que j'arrivais à identifier en tant que lecteur. Alors, C'est vraiment ma propre approche du genre. Donc c'est encore une fois pas à prendre au pied de la lettre, mais c'est comme ça, sur ces trois variations-là, que j'ai calqué ce triptyque.
Donc c'est une trilogie qui n'a de récurrence par rapport aux amateurs de polar qui sont souvent habitués aux trilogies dont les personnages reviennent. Alors quand on nous dit est-ce qu'il faut les prendre dans l'ordre, est-ce qu'il faut, ça c'est la grande question. Donc non, pas forcément, puisque les personnages, on ne les retrouve pas d'un livre à l'autre, mais ce sont des, ils n'ont de récurrence que le lieu et le côté loser, comme vous dites.
Ouais, exactement. Je me suis amusé à glisser des petits détails et les personnages s'entrecroisent tous par personnage interposé au fil des romans, mais c'est vraiment une ligne dans chacun des livres. Et effectivement, l'objectif c'était de peindre trois nuances de gris, on va dire, et de regarder s'il y avait des différences. En observant un peu au microscope ce qui changeait pas, s'il y avait des invariants. Et c'était vraiment bouger le curseur de quelques millimètres à chaque fois et garder ces mêmes ambiances et ces mêmes personnages, avec quand même comme point commun qu'ils choisissent tous ce qu'ils font et ils décident tous. C'est en aucun cas des victimes, même si... il y en a qui ont des circonstances un peu plus difficiles que d'autres. À aucun moment, ils subissent, malgré les propres justifications qu'ils se donnent et tout ça, à aucun moment, ils subissent complètement les situations, vu qu'il y a un panel de choix, ils choisissent là-dedans et ils font le mauvais ou pas. Mais je pense que c'est à chaque fois, c'est des gens qui font des choix qui leur correspondent.
Oui, on a l'impression que ce sont des tragédies urbaines à chaque fois, des trajectoires qui sont prises dans un engrenage qui leur est fatal. Mais en effet, comme vous dites, ce qu'on sent bien, c'est qu'il y a une part de responsabilité et de choix d'un destin. Le destin est très important pour ces personnages. Mais on a l'impression quand même, entre Paris la nuit, balancé dans les cordes et du vide plein les yeux, on a l'impression quand même qu'il y a une, comme vous dites, une nuance de gris, parce que c'est pas non plus... Est-ce qu'il y a une rédemption possible chez vous, dans le roman noir ou dans votre trilogie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va plus vers la lumière?
Après, ça dépend des personnages. Après, je crois beaucoup à... Je vais pas raconter qu'on fait pas ce qu'on veut de ces personnages, c'est pas vrai, mais quand on a dépeint un personnage sur 50 ou 60 pages, à l'arrivée, il y a forcément une cohérence qu'on doit presque au lecteur sur l'ensemble de la trajectoire. Et que... je ne sais pas si je dépeins... pour vous donner un exemple très simple, si on prend des personnages de fiction caricaturaux, si je vous raconte que Batman, il ne va pas aller sauver une jeune femme en détresse, vous allez me dire, c'est plus Batman. Et il y a un peu de... C'est assez stupide ce que je viens de vous dire, mais ça procède un peu du même mécanisme, c'est-à-dire que quand il y a une cohérence et j'aime pas, moi personnellement en tant que lecteur ou spectateur, j'aime pas me sentir lésé sur une fin où je vois qu'on a artificiellement truqué la fin de partie pour créer un effet plutôt réconfortant chez le lecteur, ou à l'inverse pour créer un effet choc qui est pas nécessairement justifié. Et je pense que voilà, il y a une cohérence globale sur un roman, et qu'une fois qu'on a mis les personnages sur des rails, ils peuvent difficilement sortir de ce cadre-là, et ils récoltent forcément ce qu'ils ont semé. Et d'autant que j'écris pas de science-fiction, donc je suis quand même tenu par une sorte de réalisme, et je m'en voudrais de tout faire dérailler à la fin. Ouais.
Et parmi les choses qui sont peut-être un peu plus optimistes, il y a par exemple aussi la solidarité, l'amitié de ces personnages. Ils sont tous solitaires, mais en même temps, il y a quand même l'amitié qui est là, à défaut de l'amour peut-être, ou d'un père ou d'une mère à chaque fois manquant. Il y a des amitiés, alors quelquefois qui sont ce qu'elles sont, parce qu'elles sont quelquefois dans le milieu, mais bon. Il y a quand même une fraternité.
Non, c'est sûr, c'est très vrai ce que vous dites. Il y a, pour beaucoup, ce sont des personnages cassés, et c'est vrai que l'amitié, il y a un cadre assez, assez simple de sentiments basiques et d'entraide assez intuitif qui rend... voilà, enfin tout ça, le fait que ce soit basique, ça rend les choses assez simples pour les personnages, et c'est des rapports qui sont pas complexes. Personne ne doit rien à personne, et c'est des personnages qui ont un gros problème avec l'amour pour des raisons différentes, mais une main tendue, ça signifie pas autre chose que ça. Ça engage à rien sur l'avenir. Et je pense en fait que l'amitié, c'est le seul, c'est la seule chose qu'ils ont trouvée pour remplacer un amour plus complexe et sans doute plus épanouissant, mais que c'est une sorte d'amour simplifié où eux se sentent pas redevables ou ont pas peur de perdre quelque chose. Donc c'est les seuls rapports positifs qu'ils ont entre eux, ouais, effectivement, c'est ça, complètement.
J'ai vu qu'au cinéma, les droits avaient été achetés pour les deux premiers livres. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ça m'a étonné. Qui a acheté ? Est-ce que c'est en cours ?
Parce que votre écriture est très cinématographique, c'est vrai.
Ouais, après, est-ce que c'est... Enfin, moi, je ne suis pas du tout ces dossiers-là. Je me contente, de l'écriture des livres, donc je ne peux vraiment pas vous en dire plus là-dessus.
Vous ne voulez pas nous dire, non, qui a acheté quand même les droits ? Quel cinéaste ?
C'est moins sexy que ça. C'est généralement des producteurs qui achètent. Donc, c'est un peu...
Il y a un mystère là-dessous.
Il y a un mystère complètement.
Est-ce que ça a été facile de vous faire publier ? Vous avez un manuscrit, vous allez voir la Tango, comment ça se passe ?
Oui, en fait, j'avais un manuscrit, je l'ai envoyé par la poste et ils m'ont répondu assez rapidement. Donc non, franchement, j'ai eu énormément de chance. À ce niveau-là, j'entends tout le monde dire qu'être édité, c'est très complexe et tout ça. Et c'est vrai pour la plupart. Et je pense que dans le genre, comme c'est cadré, le chemin est déjà un peu moins long. Après, moi, je vois dans la perspective dans laquelle j'étais à l'époque, c'est écrire un livre, c'est quasiment gratuit. Ça, faut juste le manuscrit, faut juste trouver un imprimeur et ça coûte un peu d'argent en timbre postaux, mais c'est vraiment pas grand chose, et on vous demande pas un CV, une photo, ce que vous avez fait et tout ça. Donc globalement, c'est une des seules activités pour laquelle vous êtes pas fliqué, on vous demande pas de montrer patte blanche avant, donc c'est sûr que c'est difficile, mais après l'avantage ou le verre à moitié plein, si on regarde les choses dans cette perspective-là, c'est qu'on est assez libre dans tout ça.
Est-ce qu'avec le prix SNCF du Polar en 2013, ça vous a donné une certaine ouverture, une notoriété ? On vient vous chercher, par exemple, pour des projets ou...
Moi, j'ai toujours initié mes projets, donc... ça n'a rien changé à ce niveau-là. Il faut que le livre, j'ai envie de l'écrire et que le sujet m'intéresse vraiment. Donc, c'est plutôt moi qui suis moteur. Et on m'a jamais proposé de sujet, ou ça ne s'est jamais passé comme ça, en tout cas. Et non, après, c'est sûr qu'en termes d'exposition et même de confiance en soi, ça donne un coup d'accélérateur, ouais, c'est évident.
Alors, en 2014, vous êtes passé dans une autre... dans une autre branche de la famille du Polar. Vous avez mis le curseur un peu plus dans un autre plan avec le dernier Tigre Rouge, publié chez 10-18 dans les Grands Détectives. Alors, comment ça s'est passé, cette étape ?
Assez simplement, moi, j'avais ce projet depuis... j'y réfléchissais depuis déjà quelques mois. Et j'ai rencontré un éditeur chez 10-18. Et moi, j'avais vraiment envie de le faire là-bas. Parce que voilà, j'ai été marqué enfant par la collection. Il y a beaucoup d'auteurs, notamment Boris Akounine, que je vous invite à lire, qui sont très doués. Vraiment, c'était pour moi du roman populaire, très grand public. Et moi, enfant, c'est le genre de livre auquel j'avais accès assez facilement. Donc, j'avais vraiment envie d'en faire un. Et puis, c'était les spécialistes de ce genre-là, de polar historique. Donc, je me suis dit que quoi qu'il arrive, je serai bien encadré parce que un livre, même si la première partie, c'est de l'écrire seul dans son coin, si on ne trouve pas l'éditeur adéquat qui va refaire travailler à fond et tout questionner et tout ça, ça peut vite se transformer en fiasco. Donc, moi, j'ai été les voir avec ce projet en leur disant que c'était un rêve d'écrire un grand détective et j'ai été extrêmement bien accueilli.
Bon. Et oui, en plus, changement de style là aussi, puisque là, vous passez, je vais laisser la parole après à Julien qui a adoré, qui l'a lu, qui l'a dévoré d'une traite et qui va en parler. Qui va en parler très bien. Vous passez en plus du jeu au il. Mm. Le jeu de la première personne et de la trilogie et le il du personnage principal, qui est aussi un homme meurtri, mais je laisse la parole à Julien qui va nous en dire certainement plus. Hein.
Mais c'est vrai que j'ai été assez sidéré par ce voyage que vous nous offrez. L'Indochine, c'est un thème qui finalement est assez absent du polar français. Contrairement aux Américains qui parlent beaucoup du Vietnam en tant que traumatisme majeur d'une société. Donc l'Indochine, avant cette fameuse guerre des Américains, vu à travers les yeux d'un légionnaire, donc pour moi c'est une double prouesse, on en parlait tout à l'heure. Malgré ça, vous réussissez à donner un éclairage très très vaste à cette aventure avec beaucoup d'humanité. On se retrouve tous dans un détail, dans un sentiment. Et c'est vrai que c'est un merveilleux voyage. Et je voulais vous demander pourquoi l'Indochine, pourquoi la Légion, comment vous en êtes arrivé là.
Alors pourquoi, En fait, c'est des strates d'envie qui se compilent et à un moment, on se dit que c'est vraiment une histoire qui vaut la peine, qui vaut la peine d'être écrite, très modestement, mais au moins, on se dit qu'on va tenter l'aventure. Alors, l'Indochine, il y avait plusieurs choses. Moi, je m'intéressais beaucoup au conflit de décolonisation et c'est vrai que c'est un conflit majeur. C'est le premier de cette envergure et que, en gros, en regardant le nombre de victimes, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus important que ce que je pensais. Et deuxième facteur, c'est qu'à part Dien Bien Phu, je ne connaissais rien, strictement rien de ce conflit. Donc j'ai gratté un peu, mais comme ça, vraiment, juste par curiosité. Et c'est un conflit dans lequel la Légion a perdu beaucoup d'hommes. C'est, je pense, le conflit depuis l'histoire de sa création. Qui lui a le plus coûté. Et donc, la Légion, déjà, c'est très intéressant, parce que c'est un corps typiquement français, et il y a un côté un peu schizophrène et très républicain là-dedans, sachant que voilà, c'est très rare que des nations aient des bataillons d'élite composés d'étrangers. Généralement, c'est plutôt de la chair à canon. Et bon, la France avait aussi ses tirailleurs et utilisait vraiment... comme de la chair à canon, les ressortissants issus de ces colonies. Mais bon, il se trouve qu'il y a une petite exception quand même là-dedans, c'est que la Légion, c'est comme je le disais, un corps d'élite qui est composé majoritairement de gens non français qui peuvent devenir français à la première goutte de son verset. Donc c'est une manière très particulière d'obtenir la nationalité et d'être naturalisé. Et la Légion, c'est toujours intéressant, mais c'est plus intéressant pour moi au sortir de la Seconde Guerre mondiale, parce que évidemment, elle se compose de tous les gens qui ont été impliqués dans la Seconde Guerre mondiale, et donc très peu de Français, il y a à peu près 5%, je crois, de mémoire, donc c'est historiquement faible, et beaucoup de gens issus d'à peu près partout, donc des anciens nazis, des anciens russes, des anciens soldats de l'armée rouge qui fuient la Russie communiste, côté français, des anciens collabos comme des anciens résistants. Donc il y a vraiment de tout, c'est des types qui se sont croisés sur des champs de bataille et qui ont souvent été opposés quelques années auparavant, et qui se retrouvent sur un bateau en 46-47 à aller faire la guerre au bout du monde, parce que je pense que le Vietnam, pour nous aujourd'hui, c'est des paysans, mais l'Indochine, pour des jeunes hommes dans les années 40, ça l'est encore plus, ça ressemble à un voyage sur Mars. Et donc voilà, ils se connaissent pas, ils se détestent plutôt, ils se retrouvent à faire la guerre pour un pays qu'ils connaissent pas, et ils oublient tout du passé, ils font corps parce que c'est la Légion et qu'on va pas parler des conflits passés. Donc je trouvais que c'était extrêmement propice à... Enfin, sur le plan dramatique, et qu'on pouvait dresser des beaux personnages à partir de là. Donc j'ai décidé de chercher un peu, voir si je pouvais faire rentrer une histoire là-dedans.
Ouais, voilà. Ça fonctionne très très bien, et le ciment de la fraternité de la Légion est, est vraiment c'est porteur, ça humanise cette guerre. Et en tout cas, merci, bravo.
Ah, merci.
Et est-ce que, d'une des dernières questions, est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous préméditez comme crime pour le prochain livre?
Franchement, aucune idée. J'ai beaucoup de pistes et il y a beaucoup
un autre roman historique.
Sans doute, mais je pense qu'il y aura, j'ai envie de continuer sur les. Enfin voilà, j'ai toujours fait des choses différentes. J'ai envie de continuer un peu là-dedans et. C'est idiot à dire, mais je marche beaucoup à l'envie et pour le moment, c'est une chance. Je ne peux pas vous répondre précisément.
Bon. Alors, après, on vous avait demandé pour ce premier mot, la polar, de choisir parmi vos coups de cœur. Alors, apparemment, vous avez beaucoup de lectures. L'un qui est très important et puis qui est en, une citation en exergue de Balancer dans les cordes.
Exactement.
C'est ça Donc, c'est David Goudis, donc grand auteur. Grand auteur de l'âge d'or du roman noir américain, peu connu en même temps, enfin pas autant qu'il devrait, voilà. Mais grand auteur, alors pourquoi ce choix pour la vie, alors c'est peut-être.
Alors parce qu'on connaît d'habitude David Goudis pour ses romans noirs tirés sur le pianiste et tout ça, mais Retour à la vie, c'est un roman d'amour. Il me semble que c'est son premier roman aussi. Donc, je pense que c'est un des, enfin voilà, c'est vraiment des plus beaux romans que j'ai lus de ma vie, je pense. Et de la part d'un auteur qui a écrit que du noir après. Et on pressent déjà l'écrivain qui va être en noir, mais il y a un truc d'humanité en plus dans ce livre qui perd dans les autres romans. On sent que c'est un roman un peu charnière et que après celui-là, il y a quelque chose qui a dû être cassé dans sa vie, parce que c'est celui-là est très désespéré, mais finit sur une note d'optimisme, et les autres se contentent du désespoir, vraiment. Donc, mais c'est un immense livre, hein, vraiment, je vous conseille de le lire.
Publié en 38.
Mais ça marche encore très bien. La force de Goudis, c'est que, et moi c'est pour ça que je l'adore, c'est que c'est un des seuls auteurs de noir auxquels j'ai eu accès très jeune, parce que j'avais les livres, mais je ne les comprenais pas, pour beaucoup, et... Goudis, c'est très simple, c'est un vocabulaire très limité, et il n'y a rien qui soit incompréhensible, et c'est quelqu'un en plus, c'est lié à l'époque, mais c'est facile, il y a toujours une facilité à pouvoir raconter sans censurer des scènes de violence ou des scènes de sexe, il y a un côté automatique qui fonctionne très bien, et qui est juste dans le choc, et lui, il s'évite à chaque fois ça, et il prend des détours pour raconter... pour raconter la violence, et c'est très très fort la manière dont il le fait, et assez virtuose, parce que c'est très minimaliste dans l'écriture.
Deuxième coup de cœur de notre auteur, donc, un auteur plus... Enfin, là, ils arrivent comme ça.
C'est comme
vous souhaitez, après. James Lieber, auteur contemporain, plus connu, et Jolly Blunt Bones.
Ouais, enfin celui-là, enfin c'est, vous devez sans doute connaître James Lieber, avec Dave Robichaud, donc ce policier qui vit en Louisiane et qui a des problèmes d'alcool, enfin des problèmes qui tente de résister, qui est sevré depuis quelques années et qui continue ses réunions d'alcooliques anonymes. J'aurais pu choisir Dans la brume électrique, mais je préfère celui-là, je sais pas pourquoi. Y a un truc très fort chez James Lieber, c'est que et c'est là que les auteurs américains de genre sont quand même au-dessus, c'est qu'ils s'embarrassent pas de considérations politiques. Et donc James Lieber, c'est très paradoxal pour un Européen a priori et pour un Français en particulier, c'est qu'il y a plein de contradictions chez son héros. Il y a une tendance très écolo et très marquée à gauche. En même temps, c'est très chrétien, à la limite du born again dans les derniers. Ça ne se prononce pas vraiment sur la peine de mort. Il y a beaucoup d'armes. Et c'est marrant parce que c'est vraiment... c'est plein de contradictions. Et c'est ça qui me plaît chez cet auteur, enfin, moi, c'est évidemment avant tout un immense styliste et un conteur hors pair de la Louisiane, mais que ce qu'il raconte, c'est bourré de contradictions, en tout cas pour nous, par rapport aux valeurs établies et à la grille de lecture plus ou moins imposée qu'on a assimilée depuis un petit bout de temps. Donc vraiment, c'est un auteur que je prends toujours beaucoup de plaisir à lire. Il écrit beaucoup, beaucoup. Et c'est, pour le coup, c'est vraiment le personnage récurrent type. Il a deux séries avec des personnages récurrents, dont Robichaud, qui a 60 ans depuis 20 ans, je pense.
À peu près, oui.
Je sais pas quel âge il a, je m'étonne toujours beaucoup comment il fait pour survivre à tout ça, mais c'est un immense auteur, vraiment.
Un autre auteur, Wintersbone, Un hiver de glace, de Daniel Woodhull. Alors ça aussi, référence, coup de cœur aussi de Karine, enfin voilà quoi, c'est...
Terrible, hein.
Ouais, assez terrible. Woodhull, ça fait partie aussi de ses... de ces auteurs du sud des États-Unis, même si bon, Woodrell, c'est l'Arkansas, donc c'est un peu plus haut, mais pareil, immense styliste. C'est un auteur, enfin, j'ai pris celui-là parce que je pense que c'est le plus connu du fait de l'adaptation cinéma. C'est un auteur qui est pas très connu en France, j'ai l'impression.
Non, c'est pas un auteur qu'on demande beaucoup à la librairie.
Ouais, et il a écrit. Enfin, voilà, moi, c'est un auteur qui m'a beaucoup inspiré parce qu'il a fait. Il a toujours flirté avec le genre, mais il a fait un livre sur la guerre de sécession. Il avait fait des polars qui se passaient dans le Bayou et qui étaient très ruraux pour ses premiers livres. Et j'ai toujours suivi le dernier, on en parlait tout à l'heure, qui est sorti chez Autrement.
Oui.
C'est un très, très grand livre. Je sais pas s'il sort pas, je pense pas encore.
Non, pas encore.
Ouais. Et enfin, Woodrell, celui-là ou un autre, bah, après celui-là, il y a quand même un dispositif qui est très efficace. C'est l'histoire d'une jeune fille qui doit retrouver son père sous peine d'être expulsée de chez elle avec ses jeunes frères et sa mère handicapée, et parce que son père doit se présenter à un jugement et qu'il ne peut pas rembourser une caution.
Puis il a disparu, elle n'arrive pas à le retrouver.
Voilà, c'est exactement
tout
ça.
Tout le livre, c'est un parcours. Ouais. Presque initiatique, avec des portes qui se ferment, et des claques dans la gueule et la désespérance.
Ouais, parce qu'elle, voilà, enfin, elle pressent que son père est mort, et donc c'est au-delà de rechercher son père, c'est plutôt rechercher, enfin trouver le cadavre de son père pour prouver qu'il n'a pas disparu, qu'il est bien mort, et pour pas être expulsé de chez elle. Donc c'est un bouquin très très noir, mais c'est un immense livre.
Et avec une plume magnifique. Paradoxalement, il a un style presque poétique, pour dire des choses d'une cruauté insoutenable.
Ouais, c'est vrai. Et c'est très drôle parce que c'est un auteur, enfin, ses premiers livres, il y a une trilogie avec un flic récurrent. Le premier, c'était Sous la lumière cruelle, et après, j'ai oublié les titres. Et c'était déjà ça, il y avait de l'humour très très noir. Et il a gardé ce truc-là, et bah, ça en fait vraiment un des écrivains américains incontournables. Pour moi, après, en France, je pense qu'il n'a pas le succès qu'il mérite.
Alors justement, en France, puisque les auteurs français sont légion, et pourtant, vous avez choisi un auteur pas très connu non plus. Alors, on entend beaucoup parler, enfin, je ne sais pas si le public connaît, Claude Clot. Et là, vous avez choisi Daracan.
Oui, c'est un des seuls qui est encore... c'est un des seuls qui a été réédité. Et, vous pouvez en trouver beaucoup, je pense, chez des bouquinistes ou... Clotz, pourquoi ? Parce que moi, quand j'étais enfant, maintenant on parle beaucoup de Manchette et tout ça. Moi, quand j'étais gamin, je connaissais pas, et j'avais ramassé dans la rue, je crois, un bouquin de Clotz qui s'appelait, je crois que c'était Yaroslav. Et c'est toujours voilà des polars très courts, mécaniques, complètement déconnectés de toute considération sociale. Ça voyage beaucoup dans ses livres, ça va aux quatre coins du monde. C'est un auteur qui parle très bien de l'Afrique. Et c'est très sombre, c'est très bordélique. C'est-à-dire que ça commence toujours de manière très concise et tout ça. Et comme c'est quelqu'un qui écrit très bien, après ça explose en pont schizoïde entre... c'est dilaté dans le temps, dans l'espace. Et c'est très difficile de parler de Clotz parce que... Moi, c'est un auteur qui m'a beaucoup inspiré. C'est peut-être l'auteur français qui m'a le plus marqué. Et encore une fois, quand je dis ça, c'est très personnel. Hein. Je ne cherche pas à dire qui est meilleur que qui. J'en ai aucune idée. et je prétends pas à ça, mais enfin voilà, j'aimerais vraiment. Puis il y a 4 ou 5 livres de lui. Voilà, je pense que Darakan en fait partie, que ce sont des grands livres, et ce sera chouette qu'il puisse être pris au moins en poche, comme Darakan l'a été.
Alors après, autre auteur anglo-saxon, enfin trois autres, Don Carpenter, Ça le temps pour les braves, chez 10-18.
Ouais, alors je l'ai, enfin Don Carpenter, c'est un très grand auteur aussi que j'ai découvert assez récemment, donc. J'ai été très impressionné par C'est le temps pour les braves, parce que c'est un roman qui est entre le noir et le blanc. C'est une fresque sur un enfant de la crise de 29 qui bascule dans la délinquance avant de s'en sortir. Il y a des très beaux passages sur le billard, parce que ça joue beaucoup au billard dans le livre. Et c'est très compliqué pour... Et je suis d'autant plus impressionné que c'est très dur de trouver des livres de cette ampleur dans le paysage actuel. Il y a vraiment un truc, c'est un grand roman mélancolique, en fait, je pense vraiment, parce que c'est une trajectoire compliquée d'un type qui pourtant fait que se relever, si bien qu'à la fin, on ne comprend plus très bien pourquoi il continue de se battre. Donc voilà, bah si.
Et on voit l'univers qui est proche de vos personnages. De
ouais, votre... après, vraiment, je pense que c'est un livre à lire quand on va très très bien. Et quand il fait beau, et parce que c'est assez déprimant, vraiment.
Et donc après, une référence incontournable après, mais bon...
Ouais, enfin, la référence, c'est évidemment Elroy. C'est même pas mon livre préféré d'Elroy, mais c'est le premier que j'ai lu.
Ah oui, c'est vrai, c'est pas Lune sanglante que vous aviez choisi, c'était...
C'est le premier que j'ai lu.
D'accord.
Voilà, c'est un souvenir de lecture très, très marquant, parce qu'en commençant, ça commence par un flashback pendant les émeutes de Watts, c'est la manière dont c'est raconté. Je me suis dit, tiens, c'est vraiment très différent. Et voilà, je ne vais pas vous parler d'Elroy, mais...
Bah c'est une des références quand même pour un auteur
pour,
de...
Ouais, pour tout le monde.
De polar, quoi, ouais. Ou pour un lecteur. Et puis, il y a un auteur scénariste aussi, Nick Pizzolatto, Galveston, chez 10-18, qui est paru là tout récemment.
Exactement.
Et qu'on a beaucoup aimé aussi sur le rayon.
Et donc, comme le bandeau le rappelle, c'est par le créateur de Trou Détective. Mais bon, enfin, je l'ai lu avant de connaître l'existence de la série, donc je peux en parler parce que c'est 10-18 qui me l'a recommandé, qui m'a fait passer le livre en me disant bah voilà, je suis sûr que ça va te plaire. Et j'ai lu derrière, j'ai trouvé ça tellement classique que je me suis dit ça va me plaire, c'est sûr, mais sans plus. Le côté la cavale d'un tueur en phase terminale, bon, avec une prostituée, et en fait c'est extraordinaire, et c'est vraiment un coup de maître, parce que faire du neuf avec de l'aussi classique et pareil, et découper le récit avec des sauts dans le temps, et en étant très très radical et en perdant le lecteur, et en s'autorisant ça, en le secouant un peu, je trouve que c'est vraiment, je pense que c'est le meilleur livre que j'ai lu l'année dernière, et j'en lis quand même quelques-uns, donc c'est vraiment à suivre. Et pour ceux qui ont vu Trou Détective, on reconnaît la patte, et c'est toujours... appréciable de voir qu'un auteur se fait pas tordre par les contraintes de la production. Et donc, je pense que c'est vraiment un immense artiste qui a une vision et qui a vraiment confiance en ce qu'il fait et à la manière dont il s'empare des sujets qui ont pourtant été traités 1000 fois. Et bah voilà, moi, c'est bête, hein, mais je trouve ça plus fort que faire un polar sur des cybercriminels. Qui voyage dans le temps, ou enfin un truc qui a aucun concept vendeur ou sur lequel on va pas se reposer, à part le texte tout bêtement, quoi. Donc je sais pas s'il reviendra à la littérature, il a l'air assez occupé par les séries télé, mais en tout cas c'est tout le mal que je lui souhaite.
Et bien merci à tous. Je pense que oui,
on peut applaudir notre invité. Merci.